France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, les vérités perdent-elles de la valeur ? Dans le monde de la communication généralisée, les publications trompeuses, les articles mensongers, les fausses croyances, les bêtises grossières semblent pouvoir être distillées et diffusées à l'envi. Cette situation n'est pas entièrement neuve. Le vrai n'a jamais été spécialement rayonnant. Sa propagation a toujours rencontré des obstacles et subi une rude concurrence. Umberto Eco avait à ce propos fait cette remarque. Les faux récits sont avant tout des récits. Et les récits, comme les mythes, sont toujours persuasifs. Existe donc en somme ce qu'il appelait une force du faux. Cette force du faux, cette saveur du faux même, bénéficie désormais de nouveaux supports et de nouveaux moyens de propagation dans le monde numérique. Elle est notamment dopée par l'IA dite générative, qui a le pouvoir de formater et de personnaliser l'information qu'elle produit, en l'adaptant à nos demandes et en tenant compte de nos tropismes intellectuels, culturels, politiques et autres. Résultat, promu par des algorithmes qui sont désormais capables de détecter nos inclinations personnelles, le faux qui nous séduit est désormais plus pandémique que le vrai qui nous déplaît. Dès lors, comment vivre et comment penser dans une telle confusion? Quelle stratégie adopter pour tenter d'y voir plus clair? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir deux invités. D'abord, Monica Atlan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et essayiste. Et puis, Roger Paul-Droit, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe et vous êtes auteur ensemble d'un livre intitulé « La grande pagaille » avec comme sous-titre « Le vrai, le faux et notre indifférence » qui vient de paraître aux éditions de l'Observatoire. J'ai observé que depuis quelques années, vous écrivez ensemble des livres qui examine la dépendance qu'il y a entre les révolutions technologiques et l'évolution de nos mentalités. Vous avez écrit un livre intitulé « Le sens des limites », un autre qui s'intitule « Quand la parole détruit ». À chaque fois, vous écrivez ensemble. Et ma question, c'est comment est-ce qu'on fait pour écrire ensemble ?
Écoutez, je crois que les cinq livres que nous avons écrits ensemble ont été, si l'on peut dire, suscités par mes réflexes de journaliste qui aime analyser la société contemporaine dans ses basculements, dans ses nouveautés, dans ses menaces. Et il se trouve que Roger Paul a une sorte de profondeur de champ philosophique qui permet justement de mettre en perspective à la fois dans le passé et dans le futur, et qui permet d'enrichir complètement ces réflexions et ces constats qu'on peut faire de l'actualité qui se déroule au jour le jour, sans recul. Et c'est effectivement cela qui nous a donné envie d'essayer de faire ce travail. Mais je crois que l'un sans l'autre, on pourrait pas le faire. C'est cet alliage qui nous a permis d'avancer un peu et effectivement de construire ces cinq ouvrages comme un tout finalement. Que se passe-t-il au niveau des révolutions technologiques? Et pour nous, il y a une chose qui est sûre, la technologie n'est ni un enfer ni un paradis, et nous ne voulons pas oublier que la transformation de l'individu et du rapport de l'individu aux sociétés joue un rôle tout aussi important, et c'est cet alliage là qu'il faut essayer de démêler pour essayer de désigner les responsabilités de ces basculements.
Roger Paul-Droit, vous êtes d'accord avec cette analyse de votre collaboration?
Oui, tout à fait. Je crois que la philosophie finalement a au moins depuis Kant, quand il se demande qu'est-ce que les Lumières, il est en train de vivre les Lumières. Et je crois qu'une des bascules de la philosophie, c'est de ne plus s'intéresser simplement à l'éternité, à l'immuable, au transhistorique, mais d'essayer de comprendre ce qui se passe ici et maintenant d'inédit. Et une des choses importante, c'est que finalement Monique, journaliste, m'a toujours apporté des questions qui concernaient notre 21e siècle, les changements des individus, les changements de l'époque, de notre rapport au monde, des frontières de l'humain, et que j'ai essayé d'utiliser ce que je peux savoir de philosophie depuis un demi-siècle, au moins, pour essayer de voir quels étaient les arrière-plans de ces questions et aussi le moyen peut-être de dégripper quelques-uns des concepts d'aujourd'hui quand ils sont mal constitués, si j'ose dire.
Monique Atlan.
Ce qui m'a le plus frappé, moi qui ne suis pas philosophe de formation, c'est de voir à quel point toute l'histoire de la philosophie s'est arrimée sur la compréhension de l'immuable, du fixe. C'est fondé sur l'idée de la rationalité. Et comme si, alors, est-ce que c'est parce qu'on est des femmes que certaines jeunes femmes philosophes aujourd'hui insistent toutes sur l'aspect des affects, des émotions dans la compréhension de ce que c'est l'être humain? Et effectivement, j'ai toujours été très frappée de voir à quel point il manquait quelque chose de l'ordre du mouvement, du processus, de la tension entre les éléments et généralement, en ce qui concerne la rationalité, cette part qui accompagne la rationalité, qui s'appelle les affects, qu'on ne peut pas éliminer. Et je crois que...
Alors d'où vient que la question de la vérité, qui est l'enjeu de votre ouvrage, vous a affecté, pour reprendre...
Parce que justement, on le dit beaucoup dorénavant, on est dans un temps, c'est le slogan, où ma vérité l'emporte dorénavant le plus souvent sur la vérité. Ce qui effectivement implique que la vérité pourrait exister, il va falloir essayer de développer cette idée, mais que ma vérité, dans une société aussi hyper individualiste, aussi dans un ensemble de un monde qui vit dans une solitude qu'on pourrait appeler une solitude industrialisée, chacun s'arrime finalement à ce qui lui reste de possibilité d'établir sa vérité, sans plus de lien ni de partage avec les autres.
On va en reparler, mais dès les premières pages de votre ouvrage, vous écrivez « La déraison guette et surtout la réalité s'absente ».
Oui, c'est parce que...
Alors, qui a écrit cette phrase, du coup?
Bon, surtout, ces phrases sont communes, si vous voulez. Alors, pour peut-être finir de répondre à votre question de départ, on est d'accord sur un thème, une trame, un synopsis du livre, et puis l'un ou l'autre fait la première version, le premier chapitre, et l'autre corrige jusqu'à ce que on finisse par être d'accord sur toutes les phrases, les mots, et on est co-auteur entièrement. Et pourquoi la déraison domine-t-elle, et pourquoi aujourd'hui y a-t-il, je crois, quelque chose qui est un désordre nouveau? Parce que, vous l'avez rappelé, les manipulations, les mensonges, les trucages, le faux et tout cet ensemble n'est pas une chose nouvelle. Mais ce qui est nouveau, c'est d'une part leur diffusion et leur perfection, puisque nous ne sommes plus capables de discerner dans une vidéo celle qui est fabriquée par une IA de celle qui est authentique. Alors ça, c'est un changement technique absolument fantastique, mais nous avons voulu aussi mettre l'accent, tout le monde met l'accent aujourd'hui sur les machines. Nous avons tenté de mettre l'accent sur les esprits. C'est-à-dire que en plus de ces changements techniques, il y a évidemment des mutations de nos regards, de nos esprits. Et c'est une sorte d'indifférence au vrai et au faux qui est en train de s'installer.
Et je dois avouer que votre propre texte publié il y a en 2020 sur le goût du vrai, où vous avez défriché d'une certaine façon cette question dans le domaine de la vérité scientifique, nous a mis en éveil, nous a mis en alerte et on a eu envie d'aller plus loin, c'est-à-dire d'élargir la question à toute la question de la vérité et non pas seulement en matière de connaissances scientifiques. C'est-à-dire que cette idée de ce que vous appelez, vous, le goût du vrai, mais que nous appelons l'indifférence...
En fait, c'était une expression de Nietzsche.
Oui.
Hein, dans le livre Humain, trop humain, dans son petit chapitre qui s'appelle L'avenir de la science, il dit « Le goût du vrai va disparaître à mesure que la vérité garantira moins de plaisir.
Mm-hmm. » Mais c'est... effectivement de ça dont il s'agit pour appliquer à l'ensemble de nos relations à toutes les formes de vérité.
Mais quand vous écrivez « La déraison guette et surtout la réalité s'absente », vous savez que dans cette émission, on aime bien les anagrammes. Mm-hmm. Alors, vous connaissez l'anagramme de la dévalorisation du réel ?
Non.
Ah. Ben, c'est trouvaille de la déraison.
Oui.
Donc la dévalorisation du réel est une trouvaille de la déraison. On l'a déjà cité dans l'émission qu'on avait faite avec Gérald Brunner. Oui. C'est une anagramme trouvée par Olivier Garcia. Donc comme l'a dit Roger Paul-Droit, on peut aujourd'hui usurper la voix de quelqu'un, même son image, et lui faire dire à peu près n'importe quoi. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mm-hmm. C'est assez désagréable et pour vous c'est une nouveauté radicale par rapport à ce qu'a pu faire la technique jusqu'à maintenant.
Écoutez, tous les sondages sont en train de le dire et de le répéter. Il y avait un sondage qui avait été fait par la Fondation Georges Jaurès et la chaîne de télévision Arte qui expliquait que 47% des gens n'arrivaient pas à distinguer le vrai du faux dans une information et que ça provoquait un stress important et que 54% des gens on trouve difficile de simplement hiérarchiser les informations. Et je pense que tout ça augmente au fur et à mesure des années. Donc il y a effectivement des répercussions très fortes sur l'idée de la possibilité de discerner.
Raphaël Gaillard, qui est psychiatre, disait à ce même micro il y a quelque temps que notre cerveau n'aime pas l'incertitude et que le fait d'avoir sur n'importe quel sujet des informations contradictoires entre elles provoque ce qu'il appelle une dépression cognitive. Et qu'une façon d'en sortir, c'est la croyance.
Oui, alors c'est pourquoi, bien sûr, ça explique pourquoi ma vérité, c'est-à-dire ma croyance, mon choix, mon goût, mon impression, l'emporte sur le vrai. Le vrai était autrefois, si j'ose dire, l'incarnation de la réalité. Ceci est vrai. Cela signifie, ça me plaît ou ça me plaît pas, mais nous sommes tous, d'une certaine manière, si c'est vrai, confrontés à une réalité commune, indépendante de nos choix, de nos éducations, de nos personnes, de nos âges, de nos goûts. Et si on refuse cela, et c'est ça qui est en train de se passer, c'est qu'on est finalement plus indifférent, mais en même temps, en creusant un peu, d'une certaine manière, l'individualisme forcené, hypertrophié dans lequel nous vivons et qui domine, conduit à cette idée que ce truc qui est pour tout le monde et pas pour moi, qui résiste à mon désir ou à mes goûts ou à mes choix, c'est finalement très désagréable. C'est quelque chose à éliminer d'une certaine manière. Je crois qu'il y a une volonté souterraine, mais d'attaquer la vérité, c'est-à-dire d'attaquer cette réalité qui résiste aux individus. Et cette grande pagaille de la technique et des esprits, nous nous sommes dit qu'elle n'était pas prête de se terminer, qu'elle est finalement durable et qu'il n'y a pas de raison de voir à terme sa fin ou son repli. Mais il y a quand même quelques éléments à chercher de diagnostic et, si j'ose dire, de survie ou de navigation dans cette grande pagaille. Et c'est ce qu'on a essayé de faire.
Mais le titre que vous avez choisi, donc « La grande pagaille », m'a intéressé parce que vous expliquez dans votre ouvrage l'origine de ce mot, ce qu'il signifie, c'est un terme de marine. Et vous avez découvert en faisant vos recherches qu'il avait un lien très explicite avec la pagaille, le fait de pagayer. Alors, comment est-ce que vous reliez les deux choses ?
Alors, on les relie à notre manière. Dans l'histoire du vocabulaire et dans ce que c'est des érudits allemands qui ont fait de l'étymologie du français de la façon la plus perfectionnée, on n'a pas avec certitude le point de relation entre les deux. Mais il existe. Et j'ai été surpris, je croyais comme tout le monde, qu'il y avait la pagaille au sens du désordre.
C'est pas n'importe quel désordre, c'est un désordre qui est lié à l'excès.
Voilà, c'est un désordre de l'abondance. C'est d'abord un désordre de l'urgence. Le terme de marine, c'est on va faire escale en pagaille. Ça veut dire d'urgence, la première crique possible, parce qu'il y a une avarie ou une tempête qui s'annonce, ou c'est ça. En pagaille, c'est en urgence. Mais c'est aussi, c'est devenu assez vite, jeter des choses dans la cale en pagaille, c'est parce que c'est quand il y en a beaucoup. Quand on dit il y a des ennuis en pagaille, il y a de l'argent en pagaille, il y a de la nourriture en pagaille, il y a l'idée d'un désordre lié à une surmultiplication et à une abondance. Et puis c'est lié aussi, et ça, ça nous a beaucoup surpris, parce que nous pensions, comme tout le monde, je crois, qu'il y avait d'un côté la pagaille désordre, et puis il y avait la pagaie, la rame à deux bouts, qu'en fait, les deux sont probablement fortement reliés, parce que les marins du qui ont commencé à découvrir les pirogues et les rames des indigènes, c'est-à-dire les pagaies, ont trouvé ça très désordonné. Je suppose que par rapport aux rames fixes sur une barque, le pagaiement ou l'usage de la pagaille avait quelque chose de désordonné. Et les deux, finalement, se sont reliés. Et nous nous demandons, finalement, comment pagailler dans cette pagaille.
C'est l'objectif de votre livre.
C'est ça.
Oui, parce que je crois que la recherche de ou le refus de la recherche de la vérité est, comme nous l'avons déjà dit, vous l'avez signalé, une attaque du réel. Mais dans les deux cas, il s'agit de ne plus accepter l'idée des limites. C'est-à-dire les limites.
Donc ça rejoint votre livre précédent.
Absolument. C'est-à-dire cette tentation de vouloir non pas transgresser les limites, mais de vouloir les annuler, tout simplement les effacer en tant que telles. Et l'idée d'accepter que dans le réel il y a des limites, ça contrevient au désir de ma satisfaction, de mon autonomie, de ma toute-puissance, de la même façon que l'idée d'accepter des limites à la vérité elle-même contrevient à l'expression de mes affects, de ma propre rationalité, de ce balancement entre tout. Et donc, il y a, et ça, cette expression, elle est de moi dans le livre, puisque vous en voulez une qui est de moi, c'était une forme de nihilisme, l'air de rien. C'est-à-dire un nihilisme soft, hein, qui ne se présente pas comme tel, mais qui accepte l'idée que c'est ou ça ou c'est la destruction. Je n'accepte pas que des limites me soient posées.
Ça veut dire que je suis libre de fabriquer ma fiction personnelle, ma
absolument,
vérité, même
absolument.
Si il s'agit d'un sujet pour lequel une vérité dite objective a été établie. Mais alors comment est-ce qu'on est arrivé à cette sorte de concaténation entre la liberté et la vérité, c'est-à-dire que la vérité est mise hiérarchiquement en dessous de la liberté. Je peux croire à peu près ce que je veux.
En tout cas de l'autonomie, de l'idée d'autonomie. Il y a comme une sorte, ce que nous appelons un délestage, encore un terme de Marine aussi d'ailleurs, puisqu'il s'agit...
Alors c'est quoi le délestage ?
Hein ?
Le délestage, qu'est-ce donc ?
Le délestage, c'est de pouvoir se décharger de poids trop lourds à porter
donc
dans un bateau, dans une montre.
C'est réduire la pagaille.
Voilà.
Donc si je comprends bien, dans votre collaboration, Roger Paul Droit, c'est la pagaille, et vous, c'est le délestage.
Si
est-ce qu'on peut le dire comme ça ?
On peut le dire comme ça, mais
en tout cas, je vois que quand il s'agit de les définir, c'est l'un et l'autre qui se répartissent les rôles.
C'est possible.
Donc le délestage, c'est comment ? C'est résister à la surinformation ?
Le délestage, je ne le dirais pas comme ça. Ça en fait partie, mais je dirais que c'est une tentation de vouloir s'alléger de toute responsabilité à l'égard du monde, des autres, en ne tenant plus compte que de sa propre existence. Une existence qui, au fond, est assez solitaire. Hein. Nous sommes des sortes de monades isolées, closes sur elles-mêmes, avec nos ordinateurs, nos iPhones. Mais il y a effectivement, de façon étagée, une sorte d'emboîtement, de délestage selon nous, c'est-à-dire qu'on d'abord on a envie de se délester de notre corps. Alors c'est un paradoxe parce que effectivement les salles de gymnastique, on a une attention au corps, mais une attention tellement démesurée que ça fait du corps un objet, c'est-à-dire qu'on ne l'accepte pas en tant que tel. Donc on n'accepte pas quoi ? On accepte le temps qui passe, l'usure, le déclin. Donc on essaye de lutter contre le corps. Et puis c'est très facile de le faire quand on télétravaille, quand on est dans le sans contact. Eh ben oui, le corps s'efface un peu. Après le corps, il y a effectivement la tentation d'évacuer le temps. Dans cette sorte de ce que François Hartog, l'historien, appelle le présentisme, où on vit des instants.
C'était l'invité d'il y a 15 jours.
Voilà. Et effectivement, il explique à quel point nous ne vivons pas l'idée d'un temps où il y aurait des représentations d'un passé, d'une mémoire ou d'un futur, mais des instants cumulés, séparés les uns des autres, dans une discontinuité totale. Donc, la durée au temps, et évidemment tout ça n'a qu'un objectif, c'est d'essayer d'éviter l'idée de la mort, qu'on invisibilise toujours plus. Et puis, un pas de plus, effectivement, si on est comme ça, dans cette solitude bien close, c'est le rapport aux autres, au niveau de la société, qui commence à se virtualiser. Hein. Et quelqu'un disait très justement, le virtuel, c'est déréalise la vérité. Hein. Et après ça, il y a effectivement toutes les instances de médiation qui sont un peu dédaigné dorénavant, l'Assemblée, ça, le spectacle est suffisamment probant, les syndicats qui n'ont plus le rôle qu'ils avaient avant, tout ce qui est de l'ordre de la représentation avec médiation est effacé, et disons on y renonce, et alors il reste quoi ? Ben il reste moi, seul, avec un désir assoiffé de ne pas être seulement anonyme, donc d'être plutôt reconnu par les autres, avec des likes, des... Et moi et ma seule vérité. Et en réalité, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il reste moi et seulement ma parole. Délestée de tout le reste.
Vous avez une phrase d'ailleurs, alors, qui l'a écrite ? Je ne sais pas. Cette phrase, c'est « Ma vie privée est privée de vie, sauf si je l'exhibe ». Est-ce que c'est ça que vous voulez signifier ?
Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'à travers cette idée...
Bon, j'ai pas le droit.
À travers cette idée de délestage et aussi cette idée de finalement exister à travers ce que l'on montre et non pas dans un réel mais d'une certaine manière dans l'image et dans la représentation, ce qu'on essaye de faire, ça n'est pas de prescrire, de dire que c'est bien ou mal ou d'expliquer, mais d'essayer de comprendre une sorte de généalogie des sujets d'aujourd'hui. Voilà, de dresser un portrait idéal de la manière dont se fabrique, à nos yeux, ce changement des esprits, des regards et des mentalités participent de cette grande pagaille.
Et dans ce domaine, il y a aussi le rôle de tous les penseurs du XXe siècle
qui n'ont pas été vos alliés.
Ben non.
Tous. Il y a les maîtres du soupçon. Alors c'est...
Voilà, oui, on essaye, si vous voulez, de décrire bien évidemment ce qui se passe dans les sujets aujourd'hui. On vient d'en parler avec cette idée de délestage. Mais on essaie aussi de comprendre que la philosophie du XXe et du XXIe siècle n'a pas, et depuis même le XIXe, n'a pas aidé la cause de la vérité. Pourquoi ? Parce que finalement, elle a été attaquée dans sa représentation classique, dans sa consistance, sa cohérence, sa force, par ceux-là même qui étaient destinés d'habitude à la défendre. La philosophie a une histoire depuis originaire, si j'ose dire, avec la question de la vérité, avec le refus des apparences, avec la traque de l'erreur et de l'illusion. Et puis, elle s'est mise, à partir, disons, du 19e siècle, elle s'est mise essentiellement à considérer que la vérité elle-même était critiquable, était illusoire, était peut-être une fausse valeur. Alors, ça a commencé avec des penseurs comme Marx, par exemple, qui montre que ce qui semble vrai dans la transparence du contrat de travail, il y a un prix de l'heure de travail, ce prix est fixé, il y a un contrat avec l'employeur et le salarié, et le prix est payé, tout paraît transparent, et derrière cette vérité de façade, il y a l'extorsion de la plus-value, il y a l'exploitation capitaliste, et donc... Le soupçon, c'est que ce que nous croyons vrai a une arrière-boutique, un double fond, peut être trompeur. Freud ne dit, sur un autre terrain, ne dit pas autre chose lorsqu'il dit que nos paroles, nos pensées, nos actes les plus significatifs, les plus maîtrisés, les plus conscients, parce que, dit-il, le moi n'est pas maître dans sa propre maison, sont truffés de choses qui nous échappent, de désirs inconscients que nous exprimons sans le savoir, etc. Et c'est Nietzsche qui finit, si je puis dire, par donner les derniers coups de marteau, en attaquant l'idée même de vérité. Comme si, dit-il, elle était une monnaie, une convention pour nommer et fixer le flux interminable du monde, que nous prenons pour une réalité. Et là, si la vérité elle-même, sous les coups de marteau de Nietzsche, n'a plus d'existence, qu'elle n'est qu'une illusion à laquelle nous tenons pour des raisons affectives ou génétiques, mais pas véritablement pour des raisons logiques, ni qui correspondent à quoi que ce soit, alors on est mal. Cette destruction, cette attaque de l'idée même de vérité, elle a eu une postérité, évidemment, tout à fait décalée par rapport à la vie de Nietzsche, mais dans les années 60, 70, 80, avec Foucault, avec Lacan, avec Derrida, et bien d'autres, où, finalement, la vieille idée classique de vérité a été amolie, déchiquetée, corrodée, attaquée de tous côtés.
Mais Roger Paul Roy, est-ce que c'est cette corrosion dont vous parlez qui explique notre indifférence à l'égard de la vérité? Parce que dans le sous-titre de votre livre, c'est le vrai, le faux et notre indifférence.
C'est-à-dire que je ne crois pas à... Il y a des histoires de poules et d'œufs interminables, évidemment, là-dedans. Mais je ne crois pas que les philosophes dictent l'époque, ni soient les maîtres du monde et des sociétés. En revanche, cette manière de miner l'idée classique de vérité, elle n'a pas aidé. Et lorsque, pour d'autres raisons, à travers les machines, à travers l'évolution sociale, l'attachement à la vérité se défait, il n'est pas contré. Voilà. Si vous voulez, c'est plutôt une convergence de processus qu'une relation de cause à effet.
Vous écrivez « la vérité ne vibre pas ». Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ça veut dire qu'elle ne fait plus vibrer et qu'elle n'a plus son pouvoir d'attirance, de respect. Elle devient, finalement, comme le réel, une strate parmi d'autres. Vous voyez, c'est-à-dire que au milieu de toutes les fictions où nous vivons, au milieu de toutes les images qui se développent, nous perdons en quelque sorte le réel. On le reconnaît encore. Personne ne confond quand même, franchement, même les accros aux jeux vidéo savent qu'il y a du réel dehors. Mais c'est un réel parmi d'autres images. Ça n'est plus le point central.
Il faut ajouter à ça le rôle du virtuel, qui effectivement est du réel, mais n'est plus pensé comme du réel. C'est un autre réel. Donc il y a une sorte de dissolution de l'idée du réel qui impacte l'idée même de vérité. Et alors, face à ça, il y a deux positions. Soit on est dans le relativisme absolu, ce qui est peut-être une solution, sans pour autant lâcher l'idée de l'horizon de la vérité, où on est dans le scientisme rigoureux, radical, qui implique de façon logique, mathématique presque, on puisse prouver ce qu'on dit.
Où on est dans la paranoïa, c'est-à-dire on se méfie de toutes les sortes de discours.
Oui, absolument.
Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que pour sortir de cette confusion dont vous parlez, il faut réhabiliter, retravailler notre esprit critique? Est-ce que ça vous semble une bonne voie, une bonne démarche?
En tout cas, ça fait partie, on peut dire, des grands classiques. Oui, l'éducation au doute. Alors, il y a réguler les réseaux sociaux, mais on voit bien que tout ça va avoir des limites. Vérifier les informations, savoir dire « je ne sais pas ».
Oui, mais il y a plusieurs sortes de doutes. Vous écrivez vous-même, les philosophes doutent pour savoir, les complotistes doutent parce qu'ils savent.
Et c'est vrai, c'est
donc
bien
il y a un mauvais usage du doute.
Oui, il peut y avoir évidemment un mauvais usage du doute. L'usage scientifique ou même l'usage classique chez Descartes, c'est la mise en cause des évidences pour trouver des vérités. Or, autrement dit, ne pas se laisser prendre au piège de la première évidence, mais la questionner, la mettre en doute. Descartes utilise le vieux doute sceptique par rapport aux sensations. Il ajoute ce qu'on a surnommé le doute hyperbolique, c'est-à-dire je m'imagine que même quand je calcule, il y a un malin génie qui manipule mes pensées. Enfin bref, une machine à douter, d'autant plus exagérée, d'autant plus puissante, qu'elle va chercher ce qui résiste comme vérité ultime. Et les complotistes d'aujourd'hui, ils font, c'est ce qu'on essaye de mettre en lumière, ils font exactement l'inverse. Ils ne doutent pas pour trouver une vérité qu'ils cherchent.
Ils la connaissent.
Ils la connaissent. Ils savent déjà...
Ils la posent d'abord.
Voilà, ils savent déjà que les vaccins anti-Covid sont des poisons, ou qu'on n'a pas marché sur la Lune, ou que la Terre est plate, ou que, enfin, prenez votre complot préféré. Et c'est à partir de là qu'ils se mettent à douter, mais d'une façon finalement déjà programmée, de tout ce qu'on leur raconte, de tout ce que disent les institutions, les...
Oui, mais il y avait justement un livre que vous connaissez certainement, de Bernard Williams, paru en 2006, qui s'intitule « Véracité et vérité », dans lequel il expliquait que nos sociétés postmodernes, dans lesquelles il n'y a plus de grands récits, sont parcourues par deux courants de pensée contradictoires, mais qui, par un effet pervers, se renforcent mutuellement. Le premier, c'est ce qu'il appelle le désir de véracité. Nous sommes tous formés, éduqués, informés, et nous ne voulons pas être dupes des discours tenus par les élites politiques, scientifiques ou autres. Et donc, ce désir de véracité, finalement, il est parfaitement légitime. C'est le souci de ne pas être dupé.
Oui.
Et donc, ça conduit à mener des enquêtes pour voir si ce qui nous est dit parce que c'est vrai, ou parce que ceux qui le disent ont intérêt à ce que nous le croyons. Mais ce qui montre, c'est que ce désir de véracité, en fait, il produit un effet contradictoire avec cette ambition, puisqu'il va déclencher dans la société tout entière ce qu'il appelle un esprit critique généralisé, qui va défaire l'idée qu'il y a des vérités assurées. Par exemple, si je vous présente une vérité, vous pourriez me dire qu'en fait, elle est relative, culturelle, instrumentalisée, factice, relative, contextuelle, de sorte que cet esprit critique défait l'idée qu'il y a des vérités.
Jusqu'à un certain point, parce que je reprends, il me semble que c'est un exemple de Bernard Williams, le type qui arrive dans un village et qui demande où est la poste, on peut toujours lui dire que c'est une question culturelle, que la poste n'existe pas dans tous les pays, que c'est...
Mais ça, c'est une vérité factuelle. Si c'est une vérité scientifique...
Il s'agit de savoir de quelle... Alors là,
oui,
vous parlez donc des vérités, ce qu'on appelle, nous, dans le livre, les vérités humaines. C'est-à-dire celles qui sont une sorte de mixte de croyances, de...
Alors donc, il faut expliquer, parce que vous dites « toute vérité est une relation ». Et il me semble que ça, c'est une phrase qu'il faut commenter. Alors, lequel des deux va...
Le prof de philo, là.
Allez, là, pour le prof de philo.
C'est l'idée que la vérité, c'est jamais... une chose, c'est jamais une substance, c'est d'abord quelque chose qui est formulé. Je ne connais aucune vérité, quelle qu'en soit la forme, qui ne prenne l'apparence d'une phrase, de quelque chose qui peut se dire. Une vérité indicible ou sans mots n'existe pas. Mais cette phrase, elle peut avoir grosso modo trois types. De relations. Elle peut être en relation avec des réalités, des faits extérieurs au langage. Alors, exemple très, très simple, si je dis qu'il y a un éléphant dans le jardin, c'est le cas où ça n'est pas. Voilà, ça peut être un éléphant en plastique, ça peut être... Bon, bref, un rapport entre ce que je dis, c'est la vieille idée d'Aristote, mais aussi de tous les scolastiques, de l'adéquation, comme il disait, entre la chose et l'esprit, la bonne correspondance entre une phrase et des faits. Ça, c'est un premier type de vérité factuelle. Il y a les vérités logiques, celles que vous connaissez mieux que nous, Étienne, des mathématiques, de la déduction, des systèmes dits hypothético-déductifs. On a des axiomes et on en déduit. C'est les rapports, cette fois, de phrases entre elles. C'est plus des phrases et des faits, c'est une phrase par rapport, un énoncé par rapport à d'autres énoncés déduits ou argumentés. Et enfin, il y a un troisième type qui sont, alors, que la philosophie classique ne rangeait pas dans les catégories de vérité, ce sont les croyances, les opinions, les avis, les goûts que nous avons aujourd'hui. tendance à imposer à la place des vérités factuelles ou logiques. Et ce que nous pensons, c'est que on a tort, si vous voulez, de vouloir les écarter comme on le fait toujours. Parce que là, ce sont, d'une certaine manière, des phrases dont la vérité est auto-contenue. Elle est à l'intérieur. Je dis qu'il en est ainsi, je pense qu'il en est ainsi, je le crois, je le ressens, je le vis. Et je n'ai pas besoin qu'il y ait, d'une certaine manière, une vérification extérieure. Et là, il faut assouplir, je pense, notre usage de l'idée de vérité pour arriver à tenir compte.
Mais où est-ce que vous mettez les vérités scientifiques dans cette classification ? Vous dites qu'il y a des vérités factuelles, d'autres qui sont logiques, d'autres qui sont des vérités d'opinion.
Mais je crois qu'elles se promènent dans ces trois catégories. Ça dépend de quel niveau de factuel.
Mais par exemple, quand je dis l'atome existe, c'est factuel, c'est logique.
Bah, ça peut être 1 plus 2, ou ça peut être effectivement dans quelques années.
C'est pas logique, c'est factuel, mais depuis peu.
Voilà.
Oui, c'est ça. Il y a des tas de faits. L'existence des trous noirs me semble un progrès.
En réalité, je crois qu'on ne peut avancer qu'en pensant que c'est avec la casuistique qu'on peut
préciser. Les vérités logiques, elles ne sont vraies que si les hypothèses qu'on pose sont justes. Vous connaissez la...
Non, pas nécessairement.
Alors, je vous donne une anecdote. Bertrand Russell.
Oui.
Un jour, un étudiant lui demande, « Monsieur, si 2 plus 2 était égal à 5, pourrait-on en déduire que vous êtes le pape ?»
Oui.
Réponse de Russell, mais oui, bien sûr. Si 2 plus 2 est égal à 5, alors 2 est égal à 3. Par symétrie, on a aussi 3 égale 2, et en soustrayant 1 de chaque côté, on tombe sur 2 égale 1. Maintenant, accordez-moi que le pape et moi, ça fait 2, mais puisque 2 est égal à 1, le pape, c'est moi.
Oui, ça s'appelle un jeu d'esprit.
Un jeu d'esprit, oui.
Et un sophisme, finalement, avec tous les jeux logiques... possible, et ils sont très, très nombreux, et les médiévaux se sont beaucoup amusés à cela. Je pense, si vous voulez, que la vraie question, c'est celle de ne pas avoir, vis-à-vis de la vérité, une seule optique, mais de la comprendre dans ses différents registres, dans ses strates. C'est une question de domaine. La vérité ultime, elle n'existe évidemment pas, puisque elle signifierait que nous possédons une connaissance de la totalité du monde qui soit une description parfaite et unique. Ça n'est pas le cas, et ça n'est sans doute jamais le cas, mais ce qui nous intéresse le plus, en dehors de ces questions de registre, c'est l'idée que, et c'est une phrase de Lessing qui est tout à fait intéressante, l'aspiration au vrai est plus importante que sa possession.
Ah oui, vous citez Einstein, d'ailleurs, vous citez Einstein à propos de Lessing.
Oui.
Einstein qui, dans ses pensées intimes, dit l'aspiration à la vérité est plus précieuse que l'assurance de sa possession.
C'est ça, oui, oui.
J'aime bien quand les philosophes citent Einstein.
Ben oui, je le comprends. Ce que je crois, c'est qu'effectivement, on ne peut pas s'en sortir sans accepter que c'est au cas par cas qu'on peut faire surgir la possibilité d'une vérité. C'est-à-dire que il s'agit plutôt d'exercer son discernement, d'être capable, peu à peu, de faire le tri, au fond. Parce que le faux... d'une certaine façon, bien qu'il s'autonomise de plus en plus, est toujours dépendant du vrai.
Mais est-ce qu'on peut toujours faire preuve de discernement quand il s'agit d'une vérité fort complexe ? Auquel cas, c'est plutôt la confiance qu'on accorde à telle ou telle personne qui compte. Par exemple, comme vous le savez, on a découvert en 2012 une particule qui s'appelle le boson de Higgs. Bon, on a beau avoir tous les discernements qu'on peut imaginer, on ne peut pas les vérifier soi-même, que c'est un résultat exact. Donc on fait confiance. Mais quand la confiance s'érode, qu'est-ce qu'il nous reste comme arme permettant, ou comme stratégie permettant de considérer que cette découverte en est vraiment une ?
Mais c'est probablement d'auto-limiter ce mépris à l'égard de ceux qui sont peut-être plus experts que soi-même. C'est bien toujours cette même question, comment relativiser ses propres certitudes, comment les mettre à l'épreuve, comment accepter qu'il y a des domaines où effectivement il y a la nécessité d'une expertise. Alors, on assiste actuellement à une sorte de débauche d'expertise à travers les chaînes d'information continue. Ça ne veut pas dire que ça résume tout ce que signifie l'expertise.
Non, mais ça laisse penser que tout événement, même un fait divers, mérite tellement de commentaires différents qu'il n'a pas en lui-même une vérité objective.
Mais oui, donc vous voyez bien que là, on ne parle pas des machines, on ne parle pas de l'intelligence artificielle. Il s'agit bien de cette forme d'individualisme qui, à mon avis, va arriver à être à bout de souffle. Tellement elle est c'est boursouflé, cette forme-là. Donc je crois qu'effectivement, la seule possibilité, c'est ce que nous avons essayé de dire à la fin de ce livre, c'est qu'il faut retrouver une sorte de critères. Et je crois que le critère moral est probablement la façon la plus sûre de retrouver, non pas la vérité, mais la capacité de recherche de la vérité.
Oui, c'est un point important dans votre livre. Vous dites que la question de la vérité est une affaire morale. Bon, pour moi, l'association n'était pas immédiate. Donc il faut que vous expliquiez en quoi cette question, en effet, a une dimension morale et pourquoi le fait de produire cette association permet de mieux pagayer dans la pagaille, pour reprendre...
Il faut déjà se mettre d'accord sur l'idée de morale. C'est-à-dire, moi j'aime bien tout ce que dit Vladimir Yankelevitch sur la morale. C'est tout sauf ce qu'on est en train d'en faire en ce moment, c'est-à-dire une sorte d'exhibition de valeurs qu'on porterait à la boutonnière, en train de se mirer dans le miroir de soi-même étant moral. Tout ça, c'est avec une sémantique tout à fait inversée qui déjoue toutes les conduites morales. Eh bien, morale dans un sens plus humble, comme le dit d'ailleurs Yankelevitch, il ne s'agit pas d'être sublime mais fidèle et sérieux en matière de recherche de vérité et donc de morale. Lui-même dit le devoir moral est une injonction première pour l'être humain. Mais on n'est pas moral en permanence. Il dit la morale est spasmodique. J'aime beaucoup cette idée-là, c'est-à-dire que ça vient par à-coup et elle se révèle et elle se désigne comme telle par le fait qu'il s'agit de faire quelque chose. C'est ça un acte moral. Il s'agit bien d'un acte moral.
Et c'est pas simplement un jugement, c'est ça que vous voulez dire.
Voilà. Il s'agit de faire la vérité. C'est une expression, c'est-à-dire ça met en œuvre quoi ? Ça met en œuvre une responsabilité. Tout ce dont tout à l'heure je vous disais qu'on essaye de se défausser. Donc oui, il y a une possibilité de rejouer la partie si on accepte de réendosser sa responsabilité et si on accepte l'idée que la morale, qui est souvent le parent pauvre, le parent oublié de la philosophie, retrouve un peu ses non pas lettre de noblesse parce que c'est très humble la morale, son efficace en tout cas.
Roger Paul Droit, le philosophe, qu'est-ce qu'il a ajouté à propos de cette question du lien entre vérité et morale ?
Eh bien que ce lien, en général, n'a pas été souligné suffisamment par la philosophie elle-même. Voilà, on peut se dire, il y a la logique d'un côté ou les faits, et puis d'un autre côté, alors imaginons une enquête policière, on a établi qui est le meurtrier, on a les preuves, on a tout le déroulement du crime, mais on peut penser par ailleurs, on peut avoir des jugements moraux opposés sur ce fait, et se dire c'est la mort d'un salaud, donc c'est une bonne chose, ou au contraire c'est l'exécution d'un innocent, c'est une abomination, etc. On dissocie apparemment la vérité et puis les jugements moraux. Mais en réfléchissant à la manière de sortir de la grande pagaille, ou en tout cas au moins d'y survivre, de naviguer, de pagailler dans cette pagaille, comme on l'a dit, nous nous sommes dit qu'il y a bien sûr ce qu'on a nommé déjà l'éducation à l'esprit critique, il y a bien sûr l'ensemble des conseils que l'on peut donner, de croiser les sources d'informations, de regarder, de douter de ses propres biais cognitifs. Parce que la philosophie aussi a cru longtemps qu'il y avait une parenté élective entre le vrai et notre raison et notre esprit, et que si nous appliquions bien la bonne méthode, nous trouvions nécessairement des vérités. On part aujourd'hui de tous les biais que nous avons, de toutes les erreurs que nous faisons, et il faut en sortir justement pour trouver du vrai. Mais rien de tout ça n'est véritablement, c'est important, mais rien de tout ça n'est suffisant. Et il nous a semblé qu'il fallait justement retrouver cette dimension morale au sens large, avec finalement quelques ancêtres philosophiques qui nous l'ont confirmé. Je pense au sens de Sophos chez les Grecs. Vous savez que c'est Sophia, la connaissance, Sophos, celui qui sait, mais ça veut dire aussi bien sage que savant. La vieille idée des Grecs, et de Socrate, mais aussi évidemment de Platon et d'Aristote, et d'autres, c'est que celui qui possède une connaissance juste, bien constituée, en est moralement transformé. Qu'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de hiatus, je veux dire, il n'y a pas d'écart entre le fait de savoir et celui d'être sage.
Oui, mais on pourrait vous rétorquer qu'aujourd'hui, on ne peut plus défendre une conception, disons, scolaire de la citoyenneté. On ne peut pas savoir dans tous les domaines de la science, par exemple. On ne peut pas être expert en génétique, en cosmologie, en climatologie, en algorithmique. Et donc, comment cette association pour laquelle vous militez entre la sagesse, disons, et la connaissance peut s'inscrire dans des cerveaux aujourd'hui?
Eh bien, je crois parce que, alors là, on retrouve une autre...
Moi, j'ai pas le droit.
Une autre filière ou une autre école, c'est celle des philosophes écossais, de ce qu'on a appelé l'école du sentimentalisme, ou même Rousseau, si vous voulez. C'est l'idée que, finalement, il y a quelque chose en nous qui nous fait préférer le vrai, qui nous fait aspirer à la vérité, même si nous n'avons pas les savoirs qui correspondent, et que c'est ça qui compte, si vous voulez. C'est que, plutôt que de se dire « anything goes », on s'en fout, toutes les réponses existent et aucune n'est vraie, et puis je préfère la fiction et le jeu vidéo et l'ensemble des fictions que je confonds avec la réalité ou que je rends équivalente à la réalité, plutôt que de se dire ça, se dire qu'il y a une attitude fondamentale qui est de chercher le vrai, de l'exiger, de le chercher, même si, bien évidemment, on n'a pas chacun les moyens de tout savoir sur tout.
Et puis, Monique, il y a peut-être cette image que nous utilisons dans le livre, c'est celle du funambule. Voilà, qui se tient toujours en tension et qui, pour ne pas tomber, doit trouver à chaque fois cet équilibre en tension entre quoi? Entre deux ignorances, entre deux savoirs confirmés, entre une ignorance et un savoir. Et je crois que vous avez cité Raphaël Gaillard tout à l'heure qui disait que le cerveau ne supporte pas l'incertitude. Mais je pense que ça va être ça, notre tâche première.
C'est de la supporter?
C'est de la traverser. C'est de la traverser, c'est de la supporter, c'est d'accepter qu'il y a une part d'inconnu, de risque, de quelque chose de flou à traverser pour être totalement vivant. C'est-à-dire de supporter ses propres limites. On en revient toujours à cette idée-là.
Est-ce que notre cerveau est capable de digérer, entre guillemets, toutes les images qu'il voit aujourd'hui, notamment produites par l'IA? Vous dites que l'image est devenue monde.
Oui. Hein,
donc, comment est-ce qu'on peut faire preuve de discernement, ou bien comment est-ce qu'on peut traverser sans trop de dommages ce flux? Pour le dire autrement, est-ce que l'IA d'aujourd'hui, notamment par sa production d'images, modifie l'intelligence naturelle, à votre avis?
Je pense qu'il y a un risque, mais que nous pouvons y résister, pas seulement individuellement, mais aussi à plusieurs. parce qu'il y a un point important qu'on n'a pas du tout mentionné, je crois, c'est la vérité comme partage et le rapport dans toute vérité, quel que soit son registre, à l'altérité. On n'est pas dans la vérité tout seul. On est toujours dans quelque chose de vrai, quel que soit, qu'il s'agisse d'une croyance ou d'un, comment dirais-je, d'une vérification scientifique, dans un processus collectif. Et c'est à plusieurs qu'il y a du vrai. Et de la même manière, il me semble que c'est à plusieurs et par rapport à l'autre qu'il peut y avoir de la résistance, et par rapport aux autres qu'il peut y avoir de la résistance au piège des
Donc on devrait dire, nous savons que,
oui.
Ça c'est la science, en tout cas ça inclut la science, et nous nous demandons si,
oui.
Ça c'est la recherche.
Absolument. Et je crois que, vous savez, je crois qu'il peut y avoir aussi un temps de fascination qui s'épuise. À l'égard, effectivement, je ne sais pas si je verrai la suite de cette histoire, je ne sais pas combien il faudra de temps pour qu'elle se déploie, mais il y a peut-être aussi l'idée d'une sorte de lassitude et de fascination qui s'éteint à l'égard des prouesses que peut l'intelligence artificielle, parce qu'au fond, on voit bien comment maintenant ChatGPT est utilisé de façon très, très banale. Et déjà, il y a moins ce truc fascinant d'il y a quelques années où on était sidéré. Et je me rappelle toujours cette remarque qu'avait fait David Chalmers, vous savez, le philosophe spécialiste de ces questions-là, de la conscience et tout, qui disait peut-être qu'un jour, parce qu'on lui posait la question de savoir si les robots pourraient nous faire la guerre, tellement ils seraient... Il a dit, ben non, il y a une probabilité, c'est qu'ils passent devant nous et puis qu'ils s'en fichent complètement et qu'ils nous dédaignent. Mais moi, je pense que l'inverse peut aussi devenir vrai, c'est-à-dire qu'il y a un usage de l'intelligence artificielle qui aura produit ces accidents, hein, comme Virilio l'a expliqué, dès qu'il y a une nouveauté technologique, il y a aussi son accident qui arrive, mais qu'au bout du compte, il est possible que ça devienne un outil et qu'au fond, on dédaigne pas l'intelligence artificielle, mais qu'elle nous fascine beaucoup moins.
Vous êtes d'accord, Roger Paul-Droit ?
C'est une possibilité, oui, mais je pense...
Parce qu'il n'y a pas le risque qu'on délègue à l'IA des compétences.
Ah, bien sûr, on le fait déjà, et on fait que ça, mais justement, ça c'est un...
Et même des décisions.
Oui, mais il y a un risque d'externalisation de la pensée, de la décision, avec une conviction qui me paraît fausse, mais c'est peut-être un autre débat, c'est que il y a une fiabilité des décisions de l'IA. Je ne prendrai qu'un exemple médical, c'est que dans le diagnostic, il y a effectivement, en fonction des multiples données, une fiabilité beaucoup plus grande que dans un diagnostic humain pour détecter une tumeur et ça. Mais prendre la décision d'intervenir ou non, en fonction de l'âge du patient, de ses propres choix, de son itinéraire, de sa situation familiale, etc., ça c'est une décision humaine. Et elle ne peut, à mes yeux, n'être prise que par un humain.
Alors, vous savez, cette émission s'appelle La Conversation Scientifique. Donc, j'aimerais qu'on parle un petit peu des vérités, entre guillemets, dites scientifiques.
Oui. On vous écoute.
Alors, il y a un livre que vous connaissez par cœur, publié en 1651 par Thomas Hobbes, qui s'appelle Le Léviathan, dans lequel il dit « La politique, ça consiste à discuter du juste et de l'injuste. » Le juste, non pas au sens de la justesse, mais de la justice. Voilà, qu'est-ce qu'il est juste de faire, quelles sont les décisions qu'on doit prendre. Et il explique que la science, elle, c'est de discuter du vrai et du faux. Et que parfois, les normes du débat politique descendent dans le champ scientifique. Par exemple, il dit, si un résultat scientifique vient contrarier ou limiter le pouvoir d'un prince, eh bien, ça peut provoquer sur ce résultat des jugements qui le contestent. Pour le dire avec des mots plus modernes, il y a des vérités scientifiques qui dérangent. Et quand elles dérangent, on est capable de développer toutes sortes de stratagèmes intellectuels pour ne pas croire ce que nous savons. Et puis par contre, les vérités qui ne nous dérangent pas, en fait, dit-il, elles nous sont indifférentes. C'est pour ça qu'on ne les conteste pas. Le théorème de Pythagore, par exemple, il n'a pas contrarié les pouvoirs de quiconque et donc il n'a pas été contesté. Quand on a annoncé en 2012 la découverte du boson de Higgs, on n'a pas vu paraître en librairie de livre intitulé « Ma vérité sur le boson de Higgs ». Donc on s'est d'abord dit, tiens, on a bien expliqué les choses. La découverte n'est pas contestée. On a été clair, puis on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'a pas été contestée parce que tout le monde s'en fiche. Alors que des résultats scientifiques concernant le climat ou d'autres choses, eux, ils sont beaucoup plus violemment attaqués.
Vous voulez dire que la vérité est politique?
Oui.
Et qu'elle est dangereuse?
Et on le voit d'ailleurs aux États-Unis de façon très spectaculaire.
Mais qu'elle soit dangereuse et politique, il n'y a pas à en douter. Simplement, il y a aussi cette idée, moi, que j'aime bien, de l'approche de la vérité comme voilée. Hein? C'est-à-dire que, effectivement, avoir affaire à la vérité continuellement a quelque chose aussi de tragique. Et donc, on doit essayer de trouver, chacun dans son espace, le scientifique, le moraliste, l'étudiant, la vieille personne, de trouver cet équilibre entre ce qu'on peut absorber de la vérité et ce qu'on laisse, voilà, comme ça, flotter sans résolution certaine. Et effectivement, le fait de regarder la vérité en face n'est pas forcément ce qui est le plus recommandé à l'être humain. Parce que c'est tragique, et il y a une dimension tragique dans la vérité.
Mais ça me donne envie de vous citer cette phrase de Bernanos, dont on fête les 138 ans aujourd'hui. Il a écrit « La vérité ressemble au soleil. On en parle avec beaucoup de sympathie, d'admiration et même de dévotion. Mais on est vite las de le regarder en face. »
Ouais, alors moi je vous cite en échange La Rochefoucauld qui dit « Le soleil ni la mort ne peuvent se regarder fixement. » Et je préfère cette simplicité de La Rochefoucauld par rapport à Bernanos, parce que Bernanos, il dit, c'est lassant de regarder le soleil.
Moi, non, il dit pas que c'est lassant.
Il dit que c'est lassant, c'est-à-dire que je peux m'arrêter quand je veux, si je veux. Tandis que La Rochefoucauld, il dit non, c'est pas possible. Et donc, c'est un peu plus de limite et d'humilité à l'égard de ce que représente l'idée de vérité, l'idée de soleil et l'idée de mort.
Oui, parce qu'en citant La Rochefoucauld dans notre livre, à la mort et au soleil qui ne peuvent ni l'un ni l'autre se regarder fixement, nous ajoutons la probabilité ou la question que la vérité, elle non plus, ne peut peut-être pas être regardée tout le temps, fixement, sans finalement nous rendre
par pudeur.
Peut-être que vous placez la notion de vérité trop. Si on appelle vérité la bonne réponse à une question bien posée, par exemple, l'atome existe, la Terre est ronde, l'univers est en expansion, les espèces vivantes évoluent, ça va, on peut vivre avec ça.
Certaines, oui. Alors là aussi, bien évidemment, il y a des millions de vérités factuelles ou logiques et scientifiques qui sont vérifiées, qui fonctionnent et qui ne posent pas, d'une certaine manière, de problème à être contemplées. Mais la vérité de notre déclin, celle de notre mort, celle de la possible fin de la planète ou des choses comme ça...
Ou de la démocratie.
Voilà, sont à la fois probablement... peuvent être considérés comme des mythes ou des idéologies, mais avec des parts de vérité factuelle qui deviennent des choses très, très difficiles. Et Nietzsche a très bien aussi expliqué cette difficulté qu'il y a à endurer le vrai lorsque il nous met en cause dans ce que nous avons de plus intime. Quoi.
Il y a une vérité qui est parfaitement factuelle, c'est qu'on arrive à la fin de cette émission. Qui a le mot de la fin?
Un mot de la fin, c'est que la vérité continue et nous aussi.
Merci à vous deux d'être venus à la conversation scientifique. Je recommande très vivement la lecture de votre livre intitulé « La grande pagaille », sous-titre « Le vrai, le faux et notre indifférence » qui vient de paraître aux éditions L'Observatoire. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la réalisation et à la mise en onde, Souad Boukorsa.